Voilà, aujourd'hui, donc je parle du corps de Jésus. Tout nous est précieux dans la personne de Jésus. Au cours des trois étapes de ce triennium, la dernière conférence du carême lui sera toujours consacrée. Aujourd'hui, le corps de Jésus. La cinquième conférence de l'an prochain, l'âme de Jésus. Et en 2012, l'Esprit de Jésus. La vie du Seigneur est la lumière du monde, c'est-à-dire le lieu par excellence qui peut éclairer nos vies et unifier le parcours de ces trois années. Nous comprendrons vraiment que l'Église est une servante et quelle est notre vocation de serviteur en son sein lorsque nous aurons contemplé la vie de Jésus, le serviteur. C'est son plus beau titre. La voix qui s'est fait entendre au baptême dans le Jourdain ou à la Transfiguration résume le message en une seule phrase. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Écoutez-le. Puisque l'amour du monde inonde la vie de Jésus, tout ce qui a trait à lui, c'est pour nous une fontaine d'amour. Et il nous tarde que l'humanité tout entière vienne s'y abreuver. Chaque parole qui sort de ses lèvres, même lorsqu'elle nous heurte ou nous rudoie, est pour nous plus précieuse qu'une pépite d'or. Chaque aspect de la vie, du corps ou de la personne de Jésus nous invite à la contemplation et à l'adoration, car il est Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu. C'est vrai du début à la fin de son existence terrestre. Depuis le moment mystérieux où l'Esprit-Saint vint sur Marie et où la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre, jusqu'aux derniers instants du Seigneur, lorsque sous le regard de ses disciples, il s'éleva et qu'une nuée le déroba à leurs yeux. Saint Ignace de Loyola, en pèlerinage à Jérusalem, juste après sa conversion, en 1523, avait voulu monter sur le rocher de l'Ascension pour voir le dernier spectacle de notre terre sur lequel Jésus avait posé son regard. C'était de la ferveur ou du romantisme. 15 ans plus tard, lorsque la Compagnie de Jésus venait d'être fondée, il ne voulut pas refaire ce pèlerinage avec ses premiers compagnons qui pourtant le lui demandaient. Sans doute était-ce parce que son regard sur le corps du Christ avait mûri et qu'il s'était transformé. Nous aimons la personne de Jésus dans le cours de sa vie terrestre comme dans l'au-delà du temps, qui a été inauguré au matin de Pâques, lorsque son corps prend une dimension mystérieuse et infinie. Chaque année, le 25 mars, nous célébrons le Verbe éternel qui entre dans notre chair. Et le Vendredi Saint, sa mort tragique sur la croix. Mais le sommet de notre foi, comme de l'année liturgique, c'est le dimanche de Pâques. Ce jour que fit le Seigneur, où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Quand il se présente au milieu des siens, vivant par-delà la mort et la mise au tombeau, certains se prosternent, mais d'autres ont des doutes, où ils pensent voir un esprit. Et Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez, mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Dans cette causerie, je suivrai un plan trois parties. D'abord, pour regarder que tout le corps de Jésus n'est qu'une parole, le Verbe fait chair. Ensuite, pour regarder le corps de Jésus et tout ce que l'Évangile m'en dit. Et enfin, pour voir que le corps de Jésus, c'est aussi, aujourd'hui et toujours, l'Eucharistie et l'Église. Ce corps, c'est donc d'abord une parole. Le Verbe s'est fait chair. Il nous plaît, à chaque fête de Noël, après avoir entendu les noms de Auguste, de Quirinus, de tous les grands de ce monde de l'époque, de revivre le moment béni où Marie mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Merveille d'humilité, aucun détail ne nous est indifférent. Est-ce qu'elle a connu les douleurs de l'enfantement, comme toute mère? Qui a entendu le cri de l'enfant qui venait de naître? Bénis soient ceux qui ont pris soin de son corps aussitôt après sa naissance. Nous aimons contempler la pauvreté de cette scène. L'enfant, entre Joseph et Marie, l'arrivée des bergers, qui explique ingénument à la Vierge Marie ce qu'elle doit savoir un petit peu mieux que eux. Chaque année, nous regardons aussi les mages, des personnages étranges, mystérieux, assez attachants, guidés par une étoile et conduits vers l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Ils expriment l'hommage de l'humanité entière à cet enfant, le roi de l'univers. Et quand la rage meurtrière d'Hérode fait peser une menace sur la vie de Jésus, Joseph, averti par l'ange, prend l'enfant et sa mère de nuit et ils partent en Égypte. Arrêtons-nous un moment pour contempler ce bébé qui arrive au temple dans les bras de ses parents. Voilà, Siméon, poussé par l'esprit. Il vient au temple justement quand les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Alors Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu. Ce cantique que nous chantons chaque soir avant de nous endormir en dit long sur le mystère de l'enfant. Il sera une lumière qui viendra éclairer toutes les nations et qui sera pour elles comme une révélation, une apocalypse, dit le texte grec. Il a 40 jours et l'on entend dire de lui qu'il est la gloire et le sommet de toute l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu. La vieille prophétesse Anne, avec ses 84 ans, parlait aussi de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On a l'impression qu'avant même que Jésus ait pris la parole, il est ce jour-là désigné comme la parole ultime de Dieu dans le monde. Son dernier mot, après des générations de patriarches, de rois et de prophètes. L'Évangile dit, l'enfant grandissait, il se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alors viennent les premiers mots que nous entendons sortir des lèvres de Jésus. Ils sont prononcés dans le temple de Jérusalem quand il a 12 ans. Tout en écoutant les docteurs de la loi, Jésus leur posait des questions et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Et à ses parents, qui ne cachent pas leur souffrance de l'avoir perdu, il répond « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. » Première parole de Jésus qui déroute ses parents, qui indique la nature de sa mission, comme les dernières prononcées juste avant l'ascension, emmèneront les disciples loin de leur perspective de restauration de la royauté en Israël. Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins ici à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils porteront une parole qui les fera devenir eux-mêmes parole à leur tour. Leur mission prolongera celle du Maître, le témoin fidèle, le Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, dit saint Paul. Que de paroles entre ces deux moments, car Jésus n'est que parole. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Puis après cette proclamation de longs enseignements dans les synagogues de Nazareth ou de Capharnaüm, des appels à la foi dans l'accomplissement des miracles, son émerveillement devant la foi du malade, « Ma fille !» Ta foi t'a sauvé, va en paix, sois guéri de ton mal. Ou son émerveillement devant le centurion. Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Lors du premier signe accompli à Cana en Galilée, il nous est dit que l'heure de Dieu arrive dans l'histoire des hommes. Dans le quatrième évangile, ce passage précède immédiatement l'épisode des vendeurs chassés du temple, que les autres évangélistes ont repoussé à la fin du ministère de Jésus. Après avoir sillonné toute la Terre Sainte, Jésus monte vers la Cité Sainte et il entre dans le lieu saint, acclamé comme le roi Messie, dans Jérusalem. Il se rend maître de la maison de son père, qui, dit-il, est devenue une caverne de brigands, un repère de voleurs, une maison de trafic, d'où il chassera les vendeurs et les chasseurs, les changeurs, tous ceux qui ont oublié que c'est d'abord une maison de prière. Alors, dit l'Évangile, il était chaque jour dans le temple pour enseigner, et le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres. Les lèvres de Jésus, le flot de paroles qui en sortent. Que de fois l'Évangile nous dit qu'elle subjugue l'auditoire. Quand Jésus parle devant les habitants de Nazareth, ceux-ci s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Même juste après, sa parole les heurte au point que tous deviennent furieux. Ils se lèvent, le poussent hors de la ville et ils veulent le mener jusqu'à un escarpement de la colline pour le précipiter en bas. En parlant l'an prochain de l'âme, ou du cœur ou de la personne de Jésus, nous verrons dans quel état d'esprit il enseigne les paraboles et comment c'est en regardant la foule qu'il comprend à quel point elle a besoin de cet enseignement. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et alors il se mit à les instruire longuement. Toutes les paroles de l'Évangile, toutes les paroles de Dieu transmises depuis la première page de la Genèse par les patriarches et les prophètes trouvent dans Jésus leur accomplissement. À la première page de la Bible, il y avait 10 paroles. Dans la Genèse, Dieu dit, la lumière fut, Dieu dit, et les animaux furent. C'est le récit de la création. Il y a aussi 10 paroles de vie données dans l'alliance du Sinaï. Ce sont nos 10 commandements. Tant de paroles aussi, transmises par les prophètes au fil des siècles, par celui qui a multiplié les alliances avant de se lancer lui-même dans l'aventure de l'alliance nouvelle et éternelle. J'aime bien réciter un psaume, le psaume 147, qui nous décrit la course folle de la parole. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Quand nous le chantons, nous pouvons penser aussi bien au siècle de la première alliance qu'à la course folle du ministère public de Jésus et à l'annonce de cette parole de Jésus au fil des siècles dans toute l'histoire de l'Église et du monde. La voix du Père qui se fait entendre pour dire « En lui, j'ai mis tout mon amour » signifie équivalemment « toute ma parole ». Car Jésus concentre en lui tout ce que le Père veut dire à ses enfants. Il est vraiment le Verbe fait chair, tel que l'annonce le prologue du quatrième évangile. Nous connaissons les paraboles de Jésus, nous retenons chacun de ses enseignements. Mais quand il parle, nous le contemplons et c'est dans le ton de sa voix et dans tout son corps que nous trouvons le sens de son message. Un messager indissociable de son message. Et cette dernière parole qu'il a prononcée sur la croix, elles nous sont particulièrement chères. Au moment d'expirer, jetant un grand cri, Jésus dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ce grand cri a retenu l'attention de nombreux mystiques, théologiens, poètes, musiciens. Il est à lui seul le résumé de tout le ministère public de Jésus, de toutes les paroles qui l'ont précédé. Il dit la communion entre le Père et le Fils, qu'aucune violence ne peut briser et dans laquelle nous avons notre place. Le centurion, qui se tenait en face de lui, a reconnu le Verbe à ce cri, dit Hans-Urs von Balthasar. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, mais au même sens où le cri est la fin du Logos articulé sur cette terre, il est, parce que c'est le cri de la rédemption, le commencement nouveau de tout discours véritable sur la terre. C'est en tant que Oméga, que Jésus devient l'alpha. Fin de citation. Contemplons maintenant le corps très saint de Jésus. Est-il normal, respectueux, de regarder le corps de Jésus de la tête aux pieds, si je puis dire? Assurément, oui. Et nous aimons trouver dans l'Évangile tant de détails sur son corps. Commençons justement par l'exemple de la tête aux pieds. À Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme prend un flacon d'albâtre et verse le nard d'un grand prix qu'il contient sur la tête du Seigneur. Tandis que chez Simon le pharisien, une autre, une pécheresse, dit-il, se met à oindre ses pieds de parfum après y avoir versé des larmes et les avoir essuyées avec ses cheveux. Ces gestes expriment de manière hautement symbolique la conversion du cœur de ces femmes et la sainteté du corps de Jésus. Le mystère de l'incarnation, c'est précisément ce chemin, celui de notre chair, que Dieu a choisi pour montrer le chemin de l'amour, le comble de son amour. La conversion à laquelle il nous appelle est certes un retournement de l'esprit, métanoïa, mais elle passera toujours par l'engagement de notre corps. Le jeûne, le sac et la cendre, ou ses attitudes féminines si expressives. À son Fils bien-aimé, dit l'Épître aux Hébreux, Dieu a façonné un corps. Et Jésus a partagé notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Après l'épisode où Jésus est dans le temple, au milieu des docteurs, Saint Luc écrit « Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. » Et plus loin, on le voit arriver à Nazareth, où il avait grandi, le texte grec dit « où il avait été nourri ». Afin d'enseigner dans la synagogue de sa ville. Lorsqu'il va au-devant du peuple pour proclamer l'Évangile, c'est donc son corps que découvrent d'abord ceux qui l'écoutent et qui le voient accomplir ses miracles. On constate que son corps les fascine et qu'ils veulent l'approcher, parvenir seulement à le toucher, le bout de son manteau. Vous connaissez tous cette femme qui avait des flux de sang depuis 12 ans, et l'Évangile dit, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, elle vint par derrière, dans la foule, et elle toucha son vêtement, car elle se disait, si je parviens seulement à toucher son vêtement, alors je serai guérie. Et ce n'est pas un cas unique. Toute la foule cherchait à le toucher, dit Saint Luc, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et ceux qui approchent le corps de Jésus savent qu'il est source de vie, de guérison. Ils sentent à quel point la sainteté de Dieu agit à travers lui. Telle est bien notre conviction, notre foi dans la parole du Sauveur. Et il déclare, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Nous aimerions reconnaître toutes ces notes précises, détaillées, qui nous parlent du corps de Jésus et qui nous aident à mieux le connaître. Il y en a partout dans l'Évangile. Parfois, c'est assez solennel, comme pour introduire le sermon sur la montagne. Il gravit la montagne, il s'assit, ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Souvent, dans des occasions de fête ou pour des jours ordinaires, on voit Jésus se mettre à table. De fait, il est fréquemment question de nourriture, de pain, de poisson, de banquet, de vin, mais aussi de jeûne. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. L'évangéliste Matthieu précise que, après le départ du démon, des anges s'approchaient pour le servir. Parfois, le ton est plus simple. Il arrive dans une ville de Samarie appelée Sychar. Jésus est fatigué par la route. Il s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Nous imaginons sans peine qu'il faisait chaud. Voilà l'introduction merveilleuse de simplicité au récit de la rencontre avec cette femme de Samarie qui venait puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». S'engage alors sur un ton assez abrupt, une conversation qui va les mener très loin. « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine ?» Maintes fois aussi, on nous parle de ses vêtements, de la transfiguration où ils devinrent blancs comme la lumière, à la passion où ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, en passant par le lavement des pieds. Jésus se leva, il ôta ses vêtements et il prit un linge, ou les outrages des soldats. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge pour le ridiculiser. Chaque fois que nous le pouvons, nous aimons aussi suivre son regard. Il se pose sur Simon, fils de Jean, lors de sa première rencontre avec celui qui va devenir Pierre. On a l'impression que dès que Jésus voit venir Nathanaël de loin, il sait déjà tout sur lui, rien que de l'avoir regardé. Voici un véritable Israélite, un homme qui ne sait pas mentir. Parfois, ce regard exprime aussi une révolte intérieure de Jésus. On le perçoit lors de la guérison de l'homme à la main paralysée. Ceux qui entourent Jésus sont tellement assurés par leur connaissance des règlements qu'ils se drapent dans une bonne foi qui n'est qu'hypocrisie. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, Jésus dit à l'homme « Étends la main !» La scène est poignante quand il s'agit de l'homme riche qui vient se mettre à genoux avec ferveur et qui lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. La force et la délicatesse de cet amour ne seront pas suffisants pour permettre à l'homme de répondre positivement à l'appel que Jésus lui lance. Et lui, à ces mots, devint sombre et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L'Évangile nous parle aussi du sommeil de Jésus. En fait, nous sommes heureux qu'il soit capable de dormir dans une barque. Même lorsque la tempête fait rage, Jésus dormait sur un coussin à l'arrière de la barque. Mais certains matins, quand il se lève, bien avant le jour, alors que la veille on lui avait amené tous les malades dans la nuit et que la ville entière se pressait à sa porte, on se demande combien de temps le pauvre il a pu dormir. Ses mains, sont toujours à l'œuvre pour prendre, pour partager le pain, pour fortifier la foi du pauvre Pierre. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ou ses mains pour bénir les enfants. On lui demande d'imposer les mains sur les malades. Et il saisit la main de la petite fille qu'il va ressusciter. Anaïm, il s'approche du corps de ce jeune homme, le fils d'une veuve qui vient de mourir. Il touche la civière et il parle avec autorité. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Il est émouvant de le voir braver les peurs et les interdits sociaux pour aller au contact des lépreux que normalement personne ne peut approcher. Jésus étendit la main, toucha le lépreux et lui dit « Je le veux, sois purifié. » On peut dire que Jésus se présente de tout son corps chaque fois qu'il affronte la maladie des autres. Ainsi, par exemple, devant la belle-mère de Pierre atteinte par la fièvre, l'Évangile nous dit Jésus s'approcha d'elle, il la prit par la main et il la fit se lever. Certaines guérisons comportent des détails qui peuvent choquer l'auditoire, mais qui ont surtout une valeur symbolique, comme celle du sourd-muet dans l'Évangile, où on prie Jésus de poser la main sur lui, il l'emmena à l'écart, loin de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et prenant de la salive, il lui touche la langue. C'est pire encore dans la guérison de l'aveugle-né. On lit, « Cela dit, il cracha sur le sol, et avec la salive, il fit de la boue, qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, avant de l'envoyer se laver à la piscine de Siloé. » Le récit nous fait penser à une recréation de l'homme modelé à l'origine avec la glaise du sol. Mais le corps de Jésus, au même moment, peut exprimer la souffrance que lui occasionne sa mission. Ce sont des scènes douloureuses devant lesquelles nos traductions ont toujours tendance à faiblir. On entend par exemple Jésus pousser un gémissement quand il lève les yeux avant de guérir ce sourd muet et qui lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». J'aimerais aussi évoquer le visage de Jésus, parce qu'il exprime tout de sa personne. L'épisode qui vient d'abord à l'esprit est celui de la transfiguration. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pierre, qui a été choisi avec Jacques et Jean pour accompagner le Seigneur sur la montagne et assister à ce spectacle, sait qu'il est dépassé par l'événement. Mais il ne craint pas de parler. « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes. » La lumière de Dieu est venue se manifester dans le corps et sur le visage du Fils bien-aimé. C'est une annonce du mystère de la résurrection, un bouleversement de notre conception du corps humain. Après les nombreux miracles accomplis en Galilée et ce sommet de lumière à la transfiguration, l'Évangile montre le Seigneur qui prend le chemin de Jérusalem en durcissant son visage. Il est conscient de l'épreuve qui se prépare et son visage trahit cette tension interne. Peu après, lorsque les 72 viennent lui rendre compte de leur mission, Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Mais son visage est aussi parfois envahi par les larmes. Ainsi, lorsqu'il entre dans Jérusalem, il se lamente sur cette ville qui n'a pas su reconnaître le temps où elle a été visitée devant la tombe de son ami Lazare. Une nouvelle fois, Jésus pleura. 2 mots. Le plus court verset de tout l'Évangile. Sans doute autant à cause de la perte de son ami que des soupçons et des accusations dont il fait l'objet. On voit alors Jésus frémir à nouveau en lui-même avant de se rendre au tombeau pour ressusciter son ami Lazare. Et pourquoi je ne dirais rien de la sexualité de Jésus ? Serait-ce qu'on voudrait enfouir dans le silence une réalité si importante de notre condition humaine dès qu'on se met à parler de Jésus? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à cacher, comme se sont mis à l'imaginer quelques réalisateurs de films ou certains romanciers dans des ouvrages trop connus et rapidement oubliés? Ils n'ont pas craint d'inventer n'importe quoi sans se soucier de savoir s'il blessait les disciples du Seigneur, ou peut-être au contraire, pour les provoquer délibérément. Ces publications à scandale, qui reviendront toujours dans l'histoire de l'Église, auront toujours du succès, mais elles ne risquent pas de laisser de traces mémorables dans la littérature. Parce que la sexualité est au service de l'amour et de la croissance humaine, de ceux qui s'aiment, parce qu'elle est source de plaisir, de joie, de vie, parce qu'elle est aussi, parfois malheureusement, un lieu de tumulte, d'égarement, de péché, parce qu'elle provoque aussi de graves blessures dans les existences humaines, il faudrait pour certains que la chasteté de Jésus ait été prise en défaut elle aussi, et qu'il n'ait pas pu vivre sa sexualité dans la paix et la maîtrise de soi, qui sont des fruits du Saint-Esprit. Pour notre foi, il est important d'affirmer que si Jésus est vraiment un homme, il a une véritable sexualité. Et il est sûr qu'il l'a vécu sainement et saintement. Le croire et le savoir nous réconfortent dans la conviction que la sexualité n'est pas un instinct ingouvernable, mais une donnée essentielle dans tous les aspects de notre vie et un don de Dieu à mettre au service de l'amour d'autrui. Contempler la dimension corporelle de la vie du Seigneur est une source d'espérance, en même temps qu'un appel à la conversion. La liturgie, d'ailleurs, annonce simplement le beau mystère du corps de Jésus, vierge et chaste, entièrement consacré à Dieu dans sa mission. Il y a 1 mois, j'ai eu la joie de présider la profession solennelle d'une carmélite à Uzès, et la liturgie m'a fait dire cette très jolie phrase: le Christ, notre Seigneur, Fils immaculé de la Vierge, a proclamé bienheureux les cœurs purs, et toute sa vie révèle la plus parfaite chasteté. Le père Jacques Guillet écrit: Jésus n'a pas choisi d'être chaste par principe, au nom d'un idéal ou comme un moyen de réaliser quelque chose. Il a tout simplement choisi d'être lui-même. Jésus enseigne que l'union de l'homme et de la femme est accomplie par Dieu lui-même et ne doit pas être brisée par l'homme. Et il évoque en même temps le signe que donnent ceux qui, dès cette terre, ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Et peu après, il indique que dans la résurrection, il n'y a pas d'union sexuelle comme sur la terre, ce qui ne signifie pas, comme l'a longuement expliqué Jean-Paul II dans ses catéchèses, que nous cessions d'être femmes ou hommes dans l'éternité. L'Évangile ne néglige pas de marquer nettement la masculinité de Jésus dans toutes ses rencontres. Aussitôt après la nativité, on évoque sa circoncision, que tant de tableaux ont représenté dans l'art chrétien. De nombreux passages décrivent la proximité, la juste distance que Jésus garde avec ses proches. Il marche, il discute, il mange avec ses disciples qui forment un groupe, mais personne ne s'étonne qu'on parle de l'un d'entre eux comme du disciple que Jésus aimait. Au moment de la scène, il sait se faire le serviteur des apôtres en leur lavant les pieds et en leur expliquant le sens de ce geste. Puis dès qu'il se relève, dans cette heure solennelle, il leur dit: « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. » Il est capable de contrer violemment Saint-Pierre: « Passe derrière moi, Satan !» Mais aussi de lui demander par trois fois, après la résurrection: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Les évangélistes semblent être particulièrement attentifs lorsqu'ils décrivent les rencontres du Seigneur avec des femmes. Nous avons déjà évoqué la rencontre avec la Samaritaine, où Jésus fait preuve d'une grande liberté, et celle des femmes qui s'approchent de Jésus avec leur parfum. Simon le pharisien est choqué de voir que le Seigneur laisse cette femme arroser de ses larmes ses pieds, puis les essuyer avec ses cheveux et y verser le parfum. Et il reste perplexe. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qu'il touche et ce qu'elle est: une pécheresse. Alors Jésus est obligé de lui donner une longue explication. Quant au geste de l'autre femme, Marie, qui à Béthanie verse un parfum précieux sur sa tête, Jésus lui donne une importance incommensurable, une portée qui traversera les siècles. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé cet évangile, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Je voudrais m'arrêter un instant sur l'évangile de la femme adultère, qui est l'évangile de notre dimanche. Les scribes et les pharisiens l'amènent devant le corps très saint de Jésus, en disant: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Là aussi, les détails ne manquent pas. Jésus, se baissant, se met à écrire avec son doigt sur le sol, puis il se redresse et il lance aux accusateurs qui insistent sa célèbre répartie: « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Voilà que ces hommes sont interpellés dans leur conscience, sans doute aussi dans leur propre corps, par cette apostrophe du Seigneur. Puis Jésus se baisse de nouveau pour écrire sur le sol et l'on sent comment il est engagé intérieurement dans cette aventure. J'ai souvent pensé que, en se redressant, il aurait aimé les voir là, présents, rester aux côtés de cette femme, ces malheureux, eux aussi, comme de pauvres pécheurs. Et le Seigneur aurait été heureux, s'ils étaient restés là, de pardonner leurs péchés en même temps que les péchés de cette femme, dans un même acte de miséricorde. Quel malheureux d'être partis sous prétexte qu'ils étaient pécheurs. Ils n'avaient qu'à rester. Combien de fois enfin nous est cher le corps du Seigneur, dans les heures tragiques de la passion. Quand on le traite si tragiquement, alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. Nous voyons un lâche gifler, toute une nuit d'outrage, le couronnement d'épines, le manteau de pourpre comme un vêtement de dérision, les clous de la crucifixion, la croix dressée sur le monde et ces trois crucifiés du Golgotha. On voudrait croiser le regard du crucifié, comprendre l'incompréhensible grâce à un petit indice au moins. Nous avons les sept dernières paroles, puis ce corps mort, abandonné, mis au tombeau à la hâte. Après le silence du samedi saint vient le matin de Pâques et ce moment unique de la résurrection qui tout à la fois appartient à l'histoire et crève le tissu de l'histoire. Notre regard sur le corps de l'homme est bouleversé par la présence de Jésus ressuscité. Marie de Magdala vient de reconnaître son Seigneur, Rabboni, et elle s'entend dire « ne me touche pas ». Jésus montre à son égard une grande affection et une souveraine liberté. Désormais, cette ère nouvelle dans laquelle seul le Père compte lui fait dire « je monte vers mon Père, vers votre Père, je monte vers mon Dieu et votre Dieu ». Jésus n'explique jamais l'événement de la résurrection, ni à Marie, ni à ses apôtres. Il ne parvient même pas à les faire sortir de leur perplexité, de leur doute. Il se contente d'attester le fait, un fait qui nous dépassera toujours. Il leur montra ses mains et ses pieds, ou dans un autre évangile, ses mains et son côté. Et il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule. » Sois croyant. Et Thomas, dont l'évangile ne dit pas s'il a touché le corps du Seigneur, répond avec ces mots qu'on nous a appris à reprendre au moment de la consécration devant le corps de Jésus vivant et ressuscité au milieu de nous. Et comme Thomas devant Jésus ressuscité, nous disons « Mon Seigneur et mon Dieu ».
Thank you.
Je profite de cette interlude pour saluer les auditeurs de RCF qui sont en union avec nous dans cette méditation sur le corps de Jésus. Frères et sœurs, après une première partie sur la parole, le verbe fait chair, une seconde où j'ai essayé de regarder concrètement le corps de Jésus dans tout ce que l'Évangile m'en dit, cette dernière partie touche un autre aspect de son corps. L'Eucharistie et l'Église. Le corps de Jésus, nous l'avons vu dans l'Évangile, nous attire comme un aimant. Nous savons que tout en lui n'est qu'amour et que le but de son incarnation n'est autre que notre liberté pour nous les hommes et pour notre salut, pour notre délivrance. Il descendit du ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La phrase que nous entendons le plus souvent à son sujet est celle qui vient au cœur de la célébration eucharistique juste au moment de la consécration. Le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Elle a un écho profond et immense en chacun d'entre nous puisqu'elle indique le centre de la vie du Christ. Et aussi, elle désigne également le centre de notre existence et de la mission de chacun de nous. Mon corps, livré dans le sacrement du mariage, dans le célibat consacré, dans la maternité, dans la paternité, dans le service des malades, l'éducation des jeunes, tout autre aspect de la construction de la société, de l'Église, de l'humanité. C'est la réalité quotidienne de notre amour, notre corps livré. L'offrande de nous-mêmes, le lieu où Dieu nous appelle à servir, à vivre le mystère de notre alliance, le concret de notre amour. Quelques minutes plus tard, à la communion, les disciples, les fidèles, s'avancent pour recevoir le pain vivant du ciel qui leur est présenté avec ces mots, le corps du Christ. Et ils répondent Amen. Un chant d'invitation à la communion. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle, exprime clairement la foi de l'Église, qui reprend les paroles d'une liturgie des premiers chrétiens. D'une part, il affirme l'identité entre le corps eucharistique et celui que l'Évangile nous a montré, en nous décrivant tout le ministère public de Jésus. Et d'autre part, il nous révèle que dans chaque acte du Christ, il y a ce que nous voyons, et ce que la foi nous permet d'entrevoir. Il y a l'acte concret de Jésus et le mystère d'un amour infini qui arrive par lui, qui agit en lui. Vous vous souvenez des couplets extraordinaires de ce chant. Le corps très saint de celui qui a justifié la pécheresse en pleurs. Concret. Le corps très saint de celui qui nous purifie par son sang. Un amour infini. Le corps très saint de celui qui a lavé les pieds de ses disciples avec l'eau. Le corps très saint de celui qui a purifié nos cœurs avec l'esprit. Le corps très saint de celui qui a reçu le baiser par trahison de Judas et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. Le corps très saint de celui qui s'est livré à Pilate et qui s'est préparé une église immaculée. 20 couplets dans ce chant qui ont la même facture et la même merveille. Tous les miracles et les enseignements du Seigneur doivent être compris avec l'arrière-fond de l'engagement de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Celui qui lit les paraboles de presse s'aperçoit qu'elles ne sont pas des contes ou des fables sympathiques aboutissant à une morale édifiante, mais que Jésus souffre quand il nous enseigne. Il préférerait parler clairement et il dit « À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné, mais à ceux qui sont dehors, tous présents sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie, ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront jamais rien. » La même chose peut être dite à propos des miracles. J'ai déjà évoqué la souffrance de Jésus, ses yeux levés au ciel, son gémissement lors de la guérison du sourd-muet. Le récit évangélique est loin de nous présenter l'événement comme l'exploit glorieux d'un guérisseur hors du commun. même si les gens sont épatés et vivement frappés et réjouis. On nous indique au contraire que chaque miracle fait partie de l'ensemble de l'œuvre de la rédemption. On voit comment Jésus y engage tout son corps et comment dans chaque miracle, il est déjà dans le mystère de sa passion. Parce que le Christ est Dieu, on peut utiliser à son propos cette expression qui fait frémir. Voici le corps de Dieu. Dans les débats qui avaient précédé le concile d'Éphèse, le peuple de Constantinople s'était opposé à son patriarche Nestorius en 428, qui refusait qu'on appelle Marie la mère de Dieu. Et ce concile, en 431, sous l'impulsion de Cyrille d'Alexandrie, donna raison au peuple contre le patriarche. Puisque l'enfant que Marie a porté en son sein et mis au monde est Dieu, on peut à juste titre appeler Marie mère de Dieu. Ce que fait le peuple chrétien depuis 17 siècles. C'était donc Dieu qui plantait définitivement sa tente dans notre humanité en prenant place dans le sein de cette jeune fille à Nazareth. Et puisque le premier des 10 commandements évoque l'adoration que l'on doit à Dieu et à Dieu seul, l'Église enseigne que la juste attitude spirituelle des disciples devant le corps de Jésus est celle de l'adoration. On pense à l'interrogation des Juifs devant la proximité de Dieu. Israël, quelle est la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Cette exclamation redouble dans le mystère de l'incarnation, de la présence réelle du Seigneur dans le sacrement de l'Eucharistie. Incroyable présence de Dieu, du corps de Jésus au milieu de nous. C'est pour ça qu'on voit depuis des siècles les chrétiens adorer en silence le corps offert, livré de Jésus dans l'Eucharistie, comme déjà dans l'Évangile, en particulier après la résurrection, les disciples se prosternaient devant le Seigneur. Vous êtes le corps du Christ. En grec, frères et sœurs, évangile et promesse, qu'on dit épangile, sont deux mots très proches. Et comme l'explique saint Paul, tout ce qui avait été promis par Dieu depuis des siècles au peuple élu est accompli dans l'Évangile, dans le Christ. Voilà justement l'Évangile. Saint Paul écrit, c'est à Abraham que les promesses épangiles furent adressées et à sa descendance. L'Écriture ne dit pas « et aux descendants » comme s'il s'agissait de plusieurs, elle n'en désigne qu'un, « et à ta descendance », c'est-à-dire le Christ, dans l'Épître aux Galates. En disant à la synagogue de Nazareth, « Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit », Jésus proclame la réalisation de cette promesse dans sa personne. Et tout l'Évangile le fait après lui depuis 20 siècles. Le lien entre le Christ et ses disciples est si fort que l'Église elle-même est appelée « corps du Christ ». Cette unité avait été exprimée maintes fois par Jésus, notamment dans le discours après la scène, avec la belle allégorie de la vigne. « Moi, je suis la vigne, et vous, vous êtes les sarments. » Comme si c'était la même sève de l'amour de Dieu qui envahissait le cep et qui se répandait dans tous les sarments jusqu'aux grappes de raisin. Ou quand le Seigneur, dans son testament, dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé », à un amour qui équivaut à une mission, comme on le comprend à la résurrection, dans la consigne missionnaire que donne Jésus, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». La sève de l'amour trinitaire passe de la terre et des racines dans le cep pour donner vie aux sarments qui porteront leurs fruits. Cet amour est comme le sang qui coule dans les artères et qui irrigue tous les membres de l'Église. Saint Paul est le premier à utiliser cette comparaison du corps à propos de l'Église. C'est précisément juste après avoir donné son enseignement sur l'Eucharistie, dans la première épître aux Corinthiens, qu'il la développe. Il appelle les Corinthiens à l'unité et au respect de la diversité des vocations et des charismes. Nous avons tous été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Et tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seulement, mais plusieurs. Et si le pied disait, et si l'oreille disait, et si tout était un seulement, mais alors où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres, et cependant un seul corps. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Il faudrait ici citer tout le chapitre 12 de la comparaison du corps et des membres. Quelques années plus tard, dans l'épître aux Éphésiens, sa comparaison a progressé avec la mention de la tête. Et il nous dit que le Christ, le sommet de tout, est la tête pour l'Église, laquelle est son corps. Si le corps du Christ désigne à la fois l'Eucharistie et l'Église, c'est parce que l'histoire du pain, c'est notre histoire. Dans un célèbre sermon de Pâques, saint Augustin développe admirablement cette comparaison qu'on pourrait résumer en une seule expression, qui est aussi un de nos chants de communion. « Vous êtes ce que vous avez reçu. Devenez ce que vous recevez. » Si nombreux que nous soyons, dit en effet l'apôtre, nous sommes tous un seul pain, un seul corps. Les épis de blé qui ondulaient sous le vent ont été coupés, comme les disciples ont été mis à part, saisis par le Seigneur, appelés par lui, auprès de lui. On rejette le mal et le péché de nos vies comme on sépare la paille et le bon grain. On doit ensuite broyer le bon grain comme le catéchumène qui vit un chemin de conversion exigeant pour devenir une farine fine, bonne. Celle-ci est mélangée ensuite avec de l'eau et du sel. Elle devient une belle pâte que le boulanger va longuement pétrir. Celui qui vient de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint par le baptême n'est plus seul. Il est lié à toute l'Église. Il devient membre de ce corps qui se laisse travailler par le Seigneur, par le Maître et par sa parole. Alors, une fois que ce pain a été bien travaillé, il est temps de le passer au four pour la cuisson. Et c'est le sacrement de la confirmation. Cuit au feu de l'Esprit. Voilà ce que nous sommes. Et le pain qui sort, il est doré, il est croustillant, il est bien cuit. Il est à la fois le pain que nous recevons dans l'Eucharistie et aussi le bon pain que les hommes doivent manger, car vous êtes le pain du Christ pour le monde, le bon pain de Dieu destiné à nourrir les hommes d'un amour qui leur est offert dans vos personnes. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Quelle merveille de chanter ces mots de saint Augustin, inspirés de saint Paul. Au XXe siècle, le père Henri de Lubac, qui vivait et qui travaillait dans la maison des Jésuites, juste à côté de cette basilique, a repris cet enseignement sur l'unité indissociable des deux corps, celui de l'Eucharistie et celui de l'Église, dans deux formules devenues célèbres. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Attention, dans les deux expressions, le verbe « faire » n'a pas le même sens. L'Église fait l'Eucharistie, elle doit la célébrer avec le plus grand soin. On pourrait dire qu'elle ne fait et qu'elle ne sait faire que cela. C'est le cœur de sa mission, rendre présent le corps de Jésus qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et prolonger son sacrifice de louange, d'action de grâce. Mais aussi, l'Eucharistie fait l'Église. Elle est toujours en train de naître, l'Église. C'est dans l'Eucharistie que jaillit la vie nouvelle de l'Église et que ce corps grandit, se fortifie, se renouvelle. C'est le titre choisi par Jean-Paul II pour sa dernière encyclique. Ecclesia de Eucharistia. L'Église naît de l'Eucharistie où son enseignement se double d'un témoignage personnel émouvant sur son amour de l'Eucharistie. En conclusion, je voudrais rappeler à quel point le signe de la croix est un lien simple et quotidien entre le corps de Jésus et le mien. C'est le premier geste de toute prière personnelle et liturgique. Sans doute aussi le premier geste de chacune de nos journées. Au réveil, nous nous disons, si Jésus a mis son corps sur la croix, par amour pour nous, je peux bien mettre sa croix sur mon corps. Au début de cette journée. L'étonnant de ce geste, vous l'avez remarqué, c'est que les paroles ne correspondent pas au signe. On dit des paroles de la Trinité et on fait le signe du Golgotha, de sa mort sur la croix. D'habitude, lorsque nous disons bonjour ou au revoir à quelqu'un, nous lui tendons la main ou nous faisons un geste d'adieu, et il y a une correspondance entre le geste et la parole. Ainsi, il serait normal que quand nous faisons le signe de la croix, nous disions des paroles de la croix. Par exemple, « Béni soit Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés ». D'où vient ce décalage entre le signe de la croix et les paroles de la Trinité? Est-ce que ces paroles seraient incohérentes avec le geste? Certes non, rassurez-vous. On a l'impression, au contraire, qu'il s'agit d'un acte de foi rapide, véloce, et que les paroles devancent le geste. En traçant le signe de la croix, on dit déjà les paroles d'après. On déduit les conséquences de l'événement qu'on est en train de marquer. Puisque le Seigneur est mort sur la croix, puisque sa mort est la source du salut, alors aujourd'hui, je vais pouvoir tout faire dans la logique de son amour victorieux. Et je vais essayer de vivre toute ma journée dans cet amour et de tout faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le signe de la croix et les paroles qui en sont comme la conséquence. La mort du Seigneur correspond à l'ouverture des portes du royaume. Comme le baptême, en nous plongeant dans le mystère pascal de Jésus, établit l'amour de Dieu Trinité au fond de nous-mêmes. L'histoire du corps du Christ, c'est la source de la transformation du monde entier. C'est ce qu'expliquait Benoît XVI aux jeunes des JMJ à Cologne en 2005. Et il leur disait, ce qui de l'extérieur est une violence brutale, la crucifixion, devient de l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Telle est la transformation véritable qui s'est réalisée le jeudi saint au Cénacle et qui visait à mettre en œuvre un processus de transformation dans le monde entier. Maintenant se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. La violence de la croix se transforme en amour. Et la mort se transforme en vie. La résurrection est déjà présente en elle. La mort est, pour ainsi dire, intimement blessée, de sorte qu'elle ne peut avoir le dernier mot. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une fission nucléaire, portée au plus intime de l'être. La victoire de l'amour sur la haine. La victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Ce qui du plus profond était nécessaire se réalise. Et nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Jésus peut distribuer son corps parce qu'il se donne réellement lui-même. Voilà, frères et sœurs, le corps très saint de Jésus montre à chacun des membres du corps de l'Église qu'il a vocation à être à son tour un corps livré pour tous ceux qu'il nous est donné de croiser, de servir et d'aimer.